EMCI TV vous présente Vie de foi, votre rendez-vous avec Pasteur Joël Spinks pour comprendre la parole, déclarer vos promesses et saisir votre victoire.
Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui et quelle joie de recevoir pour la première fois comme co-animateur Frank Poulin, l'évangéliste. Bonjour Pasteur Frank.
Bonjour, comment ça va?
Très, très bien, gloire à Dieu. Et nous avons aussi, Frank, aujourd'hui, la grâce de recevoir Pasteur Alain Patrick Tsengue, qui nous vient de la France. Bonjour, Pasteur Alain.
Bonjour, Pasteur Joël.
Bonjour, bonjour.
Évangéliste Franck.
Ça va bien?
Très bien, par la grâce de Dieu. Bien.
Oui, gloire à Dieu. Nous sommes bénis. Juste pour commencer cette émission, j'ai eu à cœur d'inviter l'évangéliste Frank à m'accompagner de temps en temps à l'émission Vie de foi. Nous le connaissons déjà bien, l'émission Bonjour chez vous. Tu es là pratiquement tous les jours. Oui. Et puis aussi, tu es animateur de l'émission Héros de la foi.
En effet.
Et puis, tu es déjà passé à l'émission Vie de foi pour, ouais, pour faire des études avec moi. Et puis, tu vas m'accompagner à l'occasion. Donc, bienvenue dans l'équipe.
Merci de me recevoir. En tout cas, merci. Ça fait plaisir.
Gloire à Dieu. Et puis, aujourd'hui, on va parler ensemble de l'équipe gagnante de Christ.
Amen.
Et moi, je crois que Dieu a vraiment instauré dans l'Église locale une équipe gagnante. Et puis, aujourd'hui, on va l'illustrer sur ce plateau avec Pasteur Alain. Tu crois dans l'équipe gagnante. Et juste avant de vraiment plonger dans notre sujet, j'aimerais que tu nous parles de ton ministère. Tu as vraiment un ministère apostolique. Oui. Tu as en ce moment 8 églises. Oui. ACER, qui veut dire Assemblée chrétienne.
L'évangélisation et le réveil.
Gloire à Dieu. Amen.
Voilà. Et tout dernièrement, on a lancé aussi d'autres. On avait 8 avant, mais là, on a lancé ACER Montpellier, ça fait 9. On a lancé ACER Libreville, ça fait 10. On a lancé ACER Quimper, ça fait 11. Et on a pour projet de lancer d'autres églises encore cette année. Mmh. Voilà, et on a des églises à Paris-Montreuil, à Paris-Épinay, à Brest, à Nantes, à Rennes, à Lyon, à Vernon, voilà, etc., etc.
Sauf que tu es un homme très occupé. C'est vrai. Et puis, Pasteur Alain...
C'est vrai que ça occupe vachement, oui.
C'est ça. Donc, tu es marié aussi à Pasteur Paulette.
C'est ça, qui est pasteur à Montreuil, à Paris-Montreuil.
Oui. Oui, et tu as 4 enfants aussi.
J'ai 4 enfants aussi, donc super aussi, avec 4 enfants, 2 filles, 2 garçons.
Wow! Donc, tu es vraiment un homme très, très occupé. On a vraiment le privilège de te recevoir à EMCI. Amen. On est amis aussi depuis plusieurs années.
Plusieurs années déjà.
Ouais. Oui. Et puis, on a la grâce de te recevoir aussi à l'Église où tu viens d'apporter des paroles de Amen. Dieu vraiment encourageantes, Amen. Édifiantes. Amen. Donc, les gens qui voudraient te contacter aussi peuvent passer par votre site web d'Église.
Exactement, exactement.
OK, gloire à Dieu. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'équipe gagnante de Christ, en fait, toute la semaine. On va en parler. Et puis, aujourd'hui, on va parler du modèle ministériel oublié. Certaines églises sont toujours dirigé par un homme, typiquement un pasteur. Mais aujourd'hui, Pasteur Alain, est-ce que tu crois que c'est vraiment la formule, que tout devrait être centré sur le leadership d'un pasteur, par exemple?
Le Seigneur, lorsqu'il est parti, il a fait des dons aux hommes. Il a laissé une grâce sur l'Église. Et si l'Église accepte de marcher avec les dons ministères dont parle Éphésiens chapitre 4, l'Église sera un peu plus influente et aura l'impact que le Seigneur a décrit. Rappelez-vous de ce que le Seigneur a dit. Il a dit, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Lorsqu'on lit ce passage, on a l'impression que l'Église qui est construite attend que le diable vienne l'attaquer. Alors que lorsqu'on lit le contexte de ce verset, c'est le contexte d'une conquête, en fait. C'est-à-dire que le Seigneur va construire l'Église et l'Église va aller conquérir des territoires, gagner des armes, et faire avancer le royaume de Dieu. Le problème avec l'Église aujourd'hui, si elle n'arrive pas à le faire, c'est parce qu'elle ne considère pas vraiment les 5 dons ministères que le Seigneur a donnés, parce que c'est une équipe. Ouais. Et justement, le titre de l'émission, c'est l'équipe gagnante. Ouais. C'est une équipe. Il faut que le leader du ministère ait les yeux prophétiques pour pouvoir discerner toutes ces personnes-là, tous ces appels-là, et les établir correctement dans l'Église locale lorsque le temps est venu.
Mm-hmm. Le texte que tu viens de citer, en fait, on reprend Éphésiens 4, versets 11 à 12. Mm-hmm. Il est écrit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, pour toi, Pasteur Alain, tu crois dans les 5 ministères.
Je crois dans les 5 ministères.
Mais dans le monde chrétien, souvent, on a juste reconnu les pasteurs et les évangélistes.
Mm-hmm.
Et puis même à ce niveau-là, les évangélistes ne sont pas reconnu comme le pasteur est reconnu.
C'est vrai.
Une des raisons pourquoi je dis ça, c'est parce que souvent, on va rémunérer le pasteur, mais l'évangéliste ne reçoit pas un soutien financier. Ouais. Et puis, je ne sais pas, toi, Frank, dans ton expérience aussi, tu vois que des fois, l'évangéliste est mis de côté.
Bien, c'est pour ça qu'on le voit ici, admettons, au Québec ou même en France, des évangélistes qui vivent de ça, qui sont soutenus par l'Église locale. Il y en a très peu. En tout cas, ça, c'est ce qu'on voit. Mais c'est vraiment un travail d'équipe et on a fait une série sur l'évangélisation ensemble. Il y a quelques semaines. Et puis, j'avais expliqué, une église locale ne peut pas travailler sans évangélistes ou sans même les autres. Et les gens, on a cette mentalité-là que oui, c'est le pasteur qui est là. Et le pasteur, des fois, parfois, il peut penser qu'il a la capacité de tout faire, mais tu ne peux pas avoir le cœur de l'évangéliste dans le cœur d'un pasteur. C'est des dons, c'est une grâce vraiment de Dieu. Et puis ça, le verset 12, ça nous dit « pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère ». J'ai une autre version que j'aime, ça dit « pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre qu'ils ont à accomplir ». Ça parle beaucoup plus aux gens. Lorsque je prêche sur ce verset, je le dis parce que les gens ont quelque chose qu'ils doivent faire et les cinq ministères sont là pour les former à faire ce qu'ils ont à faire en tant que disciples de Jésus. Et puis ça, ouais, c'est vraiment un travail d'équipe ensemble. Ça, c'est clair.
Il y a plusieurs raisons qui empêchent généralement le leader d'une église ou le leader d'un ministère à reconnaître d'autres ministères. Parfois, il y a le fait que le leader a souvent été blessé par des déloyautés de certaines personnes. Et du coup, en fait, il devient méfiant et il n'arrive plus à pouvoir discerner ces ministères-là et reconnaître que non, tel n'a peut-être pas un ministère pastoral, mais il a un ministère d'évangéliste, tel est enseignant ou tel autre est prophète. Ça, c'est le premier obstacle. Le deuxième obstacle, c'est le manque de perspicacité prophétique. Parce que les ministères sont liés à une onction. Chaque ministère a une onction. Et il faut avoir les yeux de l'esprit pour voir l'onction d'évangéliste qui repose sur quelqu'un. Parce que, en vérité, quand la personne vient à l'église, c'est pas écrit sur son front évangéliste. Hein. Elle n'a pas fait forcément des formations d'évangéliste, des choses comme ça. Parfois, les personnes se convertissent avec vous, elles grandissent avec vous et vous devez avoir l'œil prophétique pour voir la grâce de l'évangéliste, pour voir la grâce de l'enseignant et pour voir la grâce du prophétique sur la vie de la personne. Et le fait de ne pas avoir cet œil peut empêcher certains leaders de reconnaître ces ministères-là.
Si on reconnaît ces ministères-là, il faut premièrement les comprendre, vraiment comprendre. Est-ce que tu peux expliquer peut-être pour les gens à la maison qui ne connaissent pas forcément vraiment le sens de chaque titre qu'on a mentionné? Parce qu'il y a des gens aussi, des fois, qui s'imaginent, par exemple, dans ton cas, Pasteur Alain, il y a aussi ton équipe qu'on peut voir, ils t'appellent apôtre. Bon, moi, ce que j'ai expliqué dans notre église locale, je veux que les ministres soient reconnus selon leur appel ministériel, pas pour flatter les gens. C'est pas du tout une question de flatterie, mais c'est vraiment de reconnaître l'onction qui est sur la vie de la personne. Et on rappelle la personne constamment qui elle est dans le corps de Christ. Et on bénéficie spirituellement aussi de son onction. Mais si je dis, bonjour Joe Blow, il y a aussi cet esprit de familiarité qui est là. Mais si on reconnaît les dons de Dieu, on peut aussi recevoir de ce don-là. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas en ce moment, c'est quoi ça un apôtre? C'est quoi ça un évangéliste? Est-ce que tu peux juste peut-être faire un survol très, très rapide?
Je vais donner des définitions rapides et puis, bon, vous pourrez compléter. L'apôtre, c'est celui qui implante les églises. Il a une onction particulière, c'est un bâtisseur. Et l'apôtre Paul dit qu'il a construit comme un sage architecte. L'apôtre est un sage architecte, il construit les églises. Le prophète, certains diront, c'est celui qui montre la direction, d'autres diront, c'est celui qui confirme la direction. Certains diront, le prophète, c'est l'œil spirituel de l'église pour pouvoir voir certaines choses et peut-être même voir le futur et la destinée de l'église. Le ministère prophétique est extrêmement important dans une église. La raison pour laquelle certains refusent les ministères prophétiques, c'est parce qu'il y a des lacunes dans l'enseignement du prophétique, en fait, dans l'église locale. Certains ne sont pas informés, alors que si on enseigne des prophètes, ils pourront véritablement faire bénéficier de leur ministère à l'église locale. Il y a ensuite l'évangéliste. L'évangéliste, c'est celui qui va chercher les âmes dehors pour les amener dans la bergerie, aussi simplement dit. Et le pasteur, c'est celui qui va faire des soins pastoraux, qui va s'occuper de ces âmes-là, guérir les blessures intérieures, diriger les âmes pour les amener à une certaine maturité et les introduire même dans leur destinée. L'enseignant, c'est celui-là qui va expliquer les mystères de la parole de Dieu. Et il y a vraiment une différence entre le prédicateur et l'enseignant. La prédication et l'enseignement, c'est vraiment différent parce que la prédication va réveiller la foi alors que l'enseignement va expliquer pour établir la foi. Donc, c'est un peu un sommaire de ces cinq ministères. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut rajouter autour, mais voilà le survol des cinq ministères.
Et pour certaines églises, en fait, il y a des mouvements complets dans le corps de Christ qui ne reconnaissent aucun de ces ministères autres que le pasteur.
C'est dommage.
Et dis-moi pourquoi tu crois que c'est pertinent pour notre génération aujourd'hui?
Le Seigneur nous envoie dans le monde. Le Seigneur sait ce qu'il y a dans le monde, il sait les défis, il sait les attaques que l'Église va subir. Donc, si Dieu dit qu'il donne ces ministères-là pour l'Église et nous n'en tenons pas compte, il y a des batailles qu'on perdra. Il y aura des batailles qu'on perdra. Donc, c'est pour ça qu'on doit vraiment tenir compte de ces cinq ministères. Mais certains n'y arrivent pas. Comme j'ai dit, hein, par peur d'être trahi, par manque de discernement. Tu peux redire ta question, s'il te plaît?
Oui, mais en fait, c'est ça. Ce que je veux, tu l'as répondu, en fait.
Ah,
mais
OK.
C'est qu'il y a des églises, des mouvements qui ne reconnaissent pas de ministère autre que le pasteur d'une église locale. Et si Dieu a établi ces cinq ministères, moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi on se donne ou comment on peut se donner la liberté de refuser quatre sur cinq, en fait.
Exactement.
Moi, je le vois. Ici, on le voit, c'est premièrement pour l'église. Même l'évangéliste, c'est premièrement pour l'église avant les perdus. C'est pour former les croyants et tout.
Pour aller, gagner des
Oui, c'est ça. Il est là pour l'Église. Et puis moi, comment je le vois, c'est que tu as un corps, le corps de Christ. Et puis les cinq ministères sont cinq différents types d'aliments. Si tu nourris ton corps avec seulement du pain, bien, à un moment donné, ça ne fonctionne pas.
C'est ça.
Il faut qu'il y ait tout pour que le corps fonctionne fortement et qu'il y ait vraiment cette vision du prophète qui va donner. Tous les ministères sont vraiment là pour que le corps soit fort et uni. Moi, c'est comme ça que je le vois, très simplement dit en tout cas.
Un réveil spirituel. Beaucoup prophétisent que nous sommes actuellement dans le dernier plus grand réveil mondial avant le retour de Jésus. Un réveil spirituel est soutenu par la manifestation de ces cinq onctions. Lorsque Élie a prié pour que la pluie puisse venir, le jeune serviteur lui a dit qu'il voit quelque chose comme la paume d'une main. Et Élie a dit, « Akab, monte, mange et bois, parce que le grondement que tu entends, c'est la pluie. » Élie n'a pas vu forcément un nuage, du tonnerre, toutes ces choses. Le serviteur a vu quelque chose comme la paume d'une main. Et la pluie est le symbole du réveil. Et si le serviteur a vu quelque chose comme la paume d'une main, on sait que dans la paume d'une main, il y a les cinq doigts. Et ces cinq doigts peuvent représenter les cinq ministères. Pour que la pluie puisse correctement tomber, pour que le réveil puisse correctement se manifester, il faut libérer les cinq ministères. Il faut que les cinq ministères soient opérationnels. Sinon, je vous dis, l'Église aura des lacunes et l'Église encaissera des défaites. Il y a des choses qu'un apôtre fait, qu'un prophète ne peut pas faire. Il y a des choses qu'un prophète fait, qu'un évangéliste ne peut pas faire. Il y a des choses qu'un évangéliste... Ainsi de suite. Dieu a fait ça parce que dans l'Église, chacun a sa fonction pour pouvoir aider l'Église à s'affirmer et faire asseoir le réveil.
Et puis, vous, comment vous fonctionnez à votre Église par rapport aux cinq ministères? Est-ce que vous en invitez de l'extérieur? Est-ce que c'est en interne uniquement ou comment vous fonctionnez?
En fait, ce qui se passe, c'est que... Déjà, actuellement, je suis en train de former, moi-même je suis apôtre, mais je suis en train de former d'autres personnes qui vont être des responsables des pasteurs de région. Donc, ça va être aussi d'autres apôtres qui vont encadrer des pasteurs et des églises dans les régions. Par exemple, dans la région de Bretagne, je suis en train de former un dans la région du Rhône-Alpes, je suis en train de former un autre. Et là, maintenant, il y a des personnes qui ont le ministère prophétique que j'ai discerné déjà, à qui j'ai dit que tu as un appel prophétique, il y a une onction prophétique sur ta vie, et à qui je commence à donner des enseignements en privé sur le prophétique et sur comment il fonctionne. Et il y a aussi des évangélistes que j'ai déjà repérés, et je leur ai dit, ainsi de suite. En fait, le but ici, c'est de commencer une formation implicite et après établir comme une sorte d'école des ministères pour pouvoir donner un enseignement spécifique et plus officiel à ces personnes-là. Donc là, les appels dans notre église sont encore au stade, je peux dire, embryonnaire, au stade où je répère l'appel pour pouvoir les former. Mais lorsque je veux recevoir dans mon église une onction d'évangéliste, de prophète, ce que je fais, c'est que je fais appel d'abord à des amis qui viennent, qui exercent et qui montrent c'est quoi le ministère prophétique, mmh. et l'église bénéficie de ça. Sinon, dans mon église, il y a déjà des personnes qui ont ces appels, ces onctions et qui commencent déjà à fonctionner dans les coulisses et des personnes que je vais ordonner et reconnaître.
Mmh. Et tu mentionnes... ton appel, c'est vraiment celui de l'apôtre. Oui. Aujourd'hui, je pense que dans notre prochaine émission, on va vraiment décortiquer c'est quoi l'apôtre. Oui. Mais juste rapidement, il y a des gens aujourd'hui qui ont du mal même à croire que les apôtres existent encore aujourd'hui. Oui. Et peut-être dirais, mais comment peux-tu te supposer être apôtre? Il y a des gens vraiment avec cette mentalité-là. Mais une chose très importante que tu mentionnais, c'est que si on relâche, on reconnaît et on relâche les ministères que Dieu a établis, en fait, on porte beaucoup de fruits. C'est pour ça que tu peux avoir 12 églises en ce moment. Mm. C'est parce que tu as reconnu premièrement qui tu étais en Christ. Puis c'est ça qui est important aussi. Des Absolument. Fois, les gens s'imaginent, c'est une question de titre, mais c'est une question de fonction. Mm-hmm. Si quelqu'un se dit pasteur, il y a personne qui roule les yeux quand on dit « Ah, t'es un pasteur ». Oh, wow, s'imaginer être pasteur. Non, mais on reconnaît un pasteur. Ouais. C'est parce que dans notre culture chrétienne, on a juste reconnu un des cinq. Mm. Mais dans notre église, par exemple, bon, moi, je suis pasteur de l'église, mais je suis entouré d'une équipe ministérielle où les dons sont là, les dons de Dieu sont parmi nous. Et l'avantage, c'est que si, admettons, moi, je prêche, et prophète Jérémie Sourdrill, admettons, apporte un message, bien, moi, j'ai une onction différente, il a une onction différente, mais ensemble, en travaillant dans une équipe, le peuple de Dieu qui est là, bien, ce peuple-là bénéficie des onctions différentes, qui ne sont pas des rivalités, mais sont complémentaires. Donc, je pense, si on arrête de rouler les yeux et dire « Ah, telle personne se prétend être ceci ou cela », bon, c'est certain qu'il y a des gens qui ont fabriqué leur onction, qui ont fabriqué leur titre. Mais ce n'est pas une question de titre, c'est vraiment, premièrement, on reconnaît qui nous sommes dans le corps de Christ, parce que si on ne sait pas qui nous sommes, comment répondre à l'appel de Dieu? Vrai. Et toi, pasteur Alain, moi, je t'appelle pasteur Alain parce que ça fait des années qu'on se connaît.
Oui.
Et puis, c'est ça, tu as reconnu que c'était au-delà du pastorat, mais c'est vraiment un ministère apostolique où... t'es un envoyé de Dieu pour implanter des églises, et c'est ça qu'on voit en ce moment. Mais si on ne reconnaît pas, mais finalement, le corps de Christ est limité. Le royaume de Dieu est limité aussi.
La Bible dit, si tu reçois un prophète en qualité de prophète, tu recevras la récompense du prophète. Tu recevras la bénédiction que le prophète porte. Tu recevras la grâce qui a su le prophète. Si vous ne reconnaissez pas un ministère apostolique, vous n'allez jamais bénéficier de la grâce qu'il y a dans la vie de ce ministère. Donc, si vous avez peur de reconnaître que vous êtes apôtre, votre onction ne va pas peut être limité ici. Les gens dans votre peuple, dans le peuple que vous encadrez, ont du mal à pouvoir reconnaître ça, ou les gens autour ne veulent pas reconnaître ça. Ils ne vont pas en bénéficier. Mm-hmm. Moi, je vais prendre un exemple très simple. Les gens de mon équipe se sont rendus compte que je me dirigeais vers un ministère apostolique, et des hommes et des femmes de Dieu sont venus prêcher dans mon église. Ils ont vu ça, ils ont reconnu ce ministère-là, ils ont commencé à m'appeler comme tel. Mm-hmm. Et ensuite, les brebis de l'église ont commencé à m'appeler comme tel. À partir de ce moment-là, la grâce s'est pleinement manifestée et ils ont bénéficié de l'onction apostolique. Parce que l'apôtre peut avoir des pasteurs sous sa responsabilité, et quand il reconnaît ce ministère-là, des ministères pastoraux commencent à naître partout. Et parce que l'une des grâces de ce ministère-là, c'est justement de former, de susciter ces personnes-là dans l'église locale. Donc, quand les gens ne veulent pas reconnaître, ils passent à côté de quelque chose. Mm-hmm. Et puis, moi, si on ne veut pas me reconnaître comme un apôtre, en vérité, pour moi, ça me fait ni chaud ni froid, parce que l'apôtre Paul a dit, si je ne suis pas apôtre pour vous, je suis au moins apôtre pour les églises que j'ai fondées, pour les Corinthiens, les Éphésiens et les autres. Donc, c'est ça, quoi. Il faut juste travailler sous son onction, le reconnaître. Et puis voilà, au final, les gens vont finir par reconnaître que vous avez un ministère apostolique.
Amen.
Amen, amen.
Gloire
amen.
À Dieu. Donc, si on veut parler aujourd'hui juste du modèle d'une église locale selon le cœur de Dieu, on se rappelle toujours que Jésus est la tête de l'église. Amen. Donc, Éphésiens 5, 23 nous dit « Christ est le chef de l'église ». Donc, certainement, si vous êtes dans une église locale, Jésus-Christ doit être le chef de cette église, parce que c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et dans Colossiens 1, 18, la parole nous dit « Il est la tête du corps de l'église ». Et là, Dieu a établi son ordre. On va lire ensemble 1 Corinthiens 12, verset 28. Je ne sais pas si Frank, tu veux nous lire ça, 1 Corinthiens chapitre 12 et verset 28. Ici, on voit l'ordre divin que le Seigneur a établi. Puis ici, l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 12, verset 28.
Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils prophètes? Et ils continuent.
Amen. Donc, si on comprend, par exemple, juste à partir de ce texte-là, que Dieu a établi premièrement des apôtres, si on comprend l'ordre divin, Dieu a établi un leader spirituel, par exemple comme Moïse, et là, Dieu va accompagner cet homme-là d'une équipe ministérielle qui va l'appuyer dans la vision. Et si cet homme-là le sait, en fait, qu'il est responsable devant Dieu, il doit recevoir de Dieu des consignes, des directions, il va vraiment être dépendant de l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Parce qu'il sait, je dois entendre de Dieu, je dois recevoir ses directions, parce que je guide un peu. Par contre, aujourd'hui, dans plusieurs églises, ce n'est pas comme ça que ça se passe, parce qu'on ne reconnaît parfois même pas un pasteur comme étant le leader spirituel, mais c'est plutôt un conseil d'administration, un conseil d'ancien. Toi, pasteur Alain, qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui avec le scénario qu'on voit dans plusieurs églises, où les églises sont associées à un mouvement chrétien, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais finalement, au lieu que ce soit le berger qui est le
collège.
Oui, c'est plus un collège qui dirige le berger. Donc, les brebis dirigent le berger. Est-ce que c'est la vision biblique que tu crois qu'on devrait suivre?
Non. Non. Et avec mon expérience, les églises qui ont fait ça n'ont pas tenu. Ils n'ont pas tenu parce que le modèle de Dieu, c'est qu'il y ait un leader qui a une grâce, une onction sur lui. Et ce leader-là conduit le peuple et conduit le mouvement et l'équipe qui va travailler avec. Lorsqu'on essaye de faire comme dans le monde, c'est-à-dire la démocratie, et même là, ça n'a pas marché. Hein, parce qu'en France, après avoir coupé la tête du roi, en 1790, ils ont établi ce qu'on appelle un directoire, où il y avait 5 directeurs. C'était comme un collège de dirigeants. Hein, en politique, hein, ils ont établi à l'intérieur, il y avait Napoléon, la BCS et beaucoup d'autres, Cambacérès et toutes ces personnes-là. Et au fil des mois, la personnalité de Napoléon a commencé à s'affirmer et Napoléon a pris le pouvoir. On connaît l'histoire, pendant plusieurs années, il a reformé la France. Et à cause du fort leadership de Napoléon, le peuple a repris le pouvoir. Je simplifie l'histoire. Et quand le peuple a repris le pouvoir, ils ont établi une assemblée. Et cette assemblée-là a essayé de diriger le pays, mais le pays allait chaos sur chaos jusqu'à la 4e République. À la 4e République en France, l'Assemblée nationale avait toujours un pouvoir fort. Et lorsque le pays est entré dans une crise, ils ont appelé le général de Gaulle après la Deuxième Guerre mondiale. Et l'une des conditions du général de Gaulle, dans son truc en préparant la Constitution, l'une des conditions, c'était rétablir l'autorité du président de la République sur l'État. C'est-à-dire qu'il trouvait que l'Assemblée avait trop de pouvoir, il fallait un chef et un bon chef. Et depuis que la France a fait ça, la 5e République aujourd'hui continue à tenir. Le plan de Dieu a toujours été qu'il y ait un leader qui conduit les choses et les autres suivent. Parce que c'est la théocratie dans le royaume de Dieu, ce n'est pas la démocratie. Les églises qui ont fait ça, il y a toujours un leader qui a fini par s'affirmer ou bien l'église s'est déchirée. Ça, c'est vraiment mon expérience et ça fait. Moi, j'ai grandi dans les églises comme vous et j'ai observé, j'ai vu. Ce n'est pas le modèle de Dieu. Ceux qui choisissent ce modèle-là, ils vont finir par perdre leur temps. Il faut choisir le modèle de Dieu et puis marcher de manière théocratique, c'est-à-dire que Dieu donne la direction à un homme. Cet homme reçoit des directives de Dieu et il conduit tout le peuple.
Amen. Et si on lit par exemple Hébreux 13, verset 17, qui nous dit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait d'aucun avantage. » Donc, dans plusieurs églises aujourd'hui, dans le monde francophone et même dans le monde anglophone, on a un comité d'église. Le pasteur est un employé de l'église locale. Les personnes dans ce comité, le collège des anciens, vont parfois même dire à des pasteurs, je ne veux pas que tu prêches sur le baptême du Saint-Esprit, par exemple. J'ai un ami à moi qui a été congédié parce qu'il voulait vraiment revenir à la puissance du Saint-Esprit. Et les anciens de son église étaient plutôt traditionnels. Ils s'étaient refroidis depuis des années. On ne veut pas trop entendre parler en langue et dans l'église. Mais lui, il avait vraiment un feu pour Dieu. Et puis, il voulait vraiment reprêcher les choses qui avaient été abandonnées. Et puis, non, si tu continues à prêcher sur le baptême du Saint-Esprit, on va te virer. Et donc, les brebis qui étaient dans ce conseil ont viré le berger. Et puis moi, je lui ai envoyé un courriel personnel. J'ai dit, en fait, tu étais dans un système humain. J'ai dit, Dieu n'a pas... En fait, Dieu peut nous entourer des conseillers, des personnes comme dans mon cas, j'ai des bons conseillers, des hommes de Dieu qui m'aiment, qui aiment l'Église locale, qui veulent voir la progression de cette Église. Mais ce n'est pas des gens pour diriger ma vie ou me diriger dans mes prédications, ce n'est pas ça. Mais on retrouve beaucoup de ce scénario partout dans le monde de Christ, dans le monde de l'Église, pardon. Et le texte, c'est « Obéissez à vos conducteurs ». Donc, vraiment, il y a des conducteurs dans le corps de Christ. Amen. Et puis, ce n'est pas les brebis qui devraient dire au pasteur quoi prêcher, quoi faire, quelle chose à acheter. Donc, si on revient à cette idée que la démocratie ne fait pas partie du corps de Christ, aujourd'hui, si nous sommes dans une église démocratique, je veux vous encourager à chercher la face de Dieu. Et peut-être Dieu vous appelle à faire des changements. Je crois qu'il y a même des associations d'église qui doivent revoir leur façon de travailler.
Exactement.
Il y a des gens qui disent, oui, mais si on remet autant d'autorité à un pasteur, il va devenir un dictateur. Mais non, mais en même temps, si on réalise que cet homme de Dieu ou cette femme de Dieu, ils sont vraiment en relation avec Dieu, ils sont entourés aussi avec des gens qui les aiment, ils vont être relâchés dans leur appel et ils vont devenir plus dépendants. Moi, je crois qu'on devient plus dépendant de l'Esprit de Dieu si nous savons que nous avons une responsabilité. Mais imagine, pasteur Alain, si tu reçois dans ton cœur que tu dois ouvrir une église dans telle ville. Tu reçois ça dans ton cœur et tu parles à ton conseil et puis dis, non, pasteur Alain, on a vérifié les comptes et puis non, c'est pas le temps, on t'empêche là-dedans.
Ah, moi, si j'ai reçu ça du Seigneur et que c'est clair, net et précis, moi, je leur dis, non, Dieu me l'a dit, on va foncer. Ouais, mais pasteur, les comptes sont mal, machin, tout ça. Oh non, Dieu va envoyer, ne vous inquiétez pas. Moi, je fonce. Et à chaque fois que je l'ai fait, je me suis rassuré que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé. Parce que quand vous foncez et que plein de personnes vous ont dit ne fonce pas, il faut vraiment vous rassurer que Dieu vous a parlé. Moi, quand je suis certain et sûr que Dieu m'a véritablement parlé, le Seigneur m'a toujours honoré. Toujours et toujours. Il a toujours démontré au peuple et aux autres que c'était lui qui avait inspiré cette décision-là.
Je tiens à dire aussi, qu'est-ce que tu disais, si on n'est pas prêt à suivre quelqu'un dans les décisions qu'il va faire, ça démontre la confiance que tu as en cette personne. Tout simplement.
Exactement.
Aussi.
Exactement.
Est-ce que tu fais confiance à cette personne-là pour te diriger spirituellement dans ta vie ou non? Réponse est non, il faut se remettre en question parce que tu ne vas même pas recevoir de lui.
Tu ne recevras même pas de lui.
C'est vrai. Moi, je vais vous encourager à la maison, vraiment, tous ceux qui sont en leadership spirituel et ceux qui sont peut-être à la tête de mouvements d'église aussi. Je crois que les brebis doivent comprendre le modèle divin, mais aussi les leaders spirituels. Et je crois que c'est l'heure pour nous de voir un réveil dans la francophonie, un réveil massif, mais je pense qu'on doit revenir à l'idée de Dieu. Ça fait peut-être 100 ans que vous êtes dans un mouvement d'église, peut-être pas vous personnellement, mais votre église est dans un mouvement. Et puis, ça fait longtemps que les gens travaillent d'une certaine façon. Mais si c'est l'ordre divin parfait, pourquoi qu'on ne voit pas les résultats qu'on veut voir? Donc, on doit revenir à Éphésiens 4, verset 11, et dire, les cinq ministères sont vraiment l'idée de Dieu. On va adopter l'idée de Dieu et on va changer notre façon de travailler pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Et je sais que le résultat sera des hommes qui seront sauvés et l'Église qui va devenir plus forte dans l'onction. Donc, c'est merveilleux. On va poursuivre demain dans cette étude bénie. Merci, pasteur Alain, d'avoir été là. Vraiment, nous avons passé du bon temps et merci à vous d'avoir été là. D'ici à demain, soyez richement bénis.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Vie de foi sur emcitv.com.